Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes rayons de soleil, mes parapluies, j'espère que vous allez bien. De mon côté, comme vous l'imaginez peut-être, ce sont des jours très difficiles avec l'actualité. J'ai fait jeudi dernier une chronique sur Quotidien pour exprimer mon émotion de la manière la plus personnelle possible, via le prisme de l'humour, du décalage. Je vous invite à la retrouver sur le replay de TF1. Elle sera peut-être en cross-post aussi sur Instagram. Si c'est le cas, il y a souvent des haters dans les commentaires, donc je compte sur vous pour envoyer du love. Les haters, c'est le premier sujet de discussion avec notre invitée du jour, la délicieuse Anne de Pétrigny, qui est autrice, chroniqueuse et réalisatrice. On a parlé de l'adaptation de son livre La Quête, en seule en scène, qu'Anne interprète au point virgule tous les vendredis et samedis à 20h, jusqu'au mois de décembre. Foncez la voir pour un moment de pure grâce. En attendant, j'espère que vous apprécierez notre échange sur le doute, les accidents qui guident la vie, l'humour comme meilleur antidépresseur, la dureté des pères, le sentiment d'illégitimité, nos projets respectifs de cinéma. Anne dévoile une anecdote dont je vous révèle un détail insolite. À un moment, elle se retrouve à prendre une douche en gardant son soutien-gorge. Je ne vous en dis pas plus et je ne ferai pas d'outro pour cet épisode car il est 2h44 du mat à l'heure actuelle et voilà, c'est très compliqué de tout concilier, même si c'est du bonheur. Sur ce, bonne écoute, en bonne compagnie avec Anne.
T'en as des haters ?
Oh, ça arrive, c'est pas, pas des masses, mais non, pas beaucoup hein, d'ailleurs. Peut-être ouais. Pas assez, hein, je suis peut-être pas assez. Mais toutes les premières fois que j'en ai eu, elles m'ont dit « Ah ben voilà, ça y est !»
Ça marche
ça décolle oui, si, j'en ai, oui, ça arrive, ouais. Des trucs un peu très bizarres, tu sais pas d'où ça sort.
Mais juste de méchanceté.
En général, c'est sur Quotidien, c'était juste pour dire « T'es pas marrante, tu sers à rien », des trucs comme ça, quoi, voilà, c'est surtout ça. Ouais. Après, c'est rien d'adressé. Et la dernière fois, alors ça m'est arrivé une fois où je faisais une chronique sur le grand remplacement, justement, pour me moquer des gens qui pensaient que ça pouvait arriver, en fait. et là, j'ai eu évidemment un militaire,
facho.
Oui, voilà, odieux, machin. Et aussi, j'ai eu, là, une fois récemment, c'était quoi? Ah oui, parce que j'ai fait un truc, là, un portrait de Francis Cabrel, qui était invité, et j'ai fait l'accent. Et donc il me fait ouais c'est ça moque-toi de l'accent du sud on va se moquer de ta chirurgie. J'étais là chirurgie mais putain j'en ai pas fait encore bah quand j'en ferai
moque-toi à ce moment-là
J'étais là bon écoute de toute façon t'as toujours des
et attends c'était sur quelle plateforme?
C'était sur un message privé sur mon Insta.
Ah, putain. Il allait te retrouver
oui.
C'était même pas un commentaire.
Ah non
il a pris le temps
bien sûr. Ouais un message privé ouais.
Et en même temps les femmes sont quand même beaucoup plus sujettes
évidemment.
Au harcèlement.
Ce que tu dis c'est très juste. Je sais pas si tu veux qu'on se vous voie pour son chronique.
On peut se tutoyer,
ah,
s'il te
plaît. D'accord. Donc, ce qui est très juste, c'est que moi, avant même l'apparition des réseaux, moi, j'étais déjà à la télé et je constatais que de toute façon, les commentaires, ça, c'est dingue, hein, les commentaires qui m'étaient retournés, même dans ma famille, enfin, d'une manière générale, j'y visais toujours le physique, en fait, ou les trois quarts du temps. C'est-à-dire, t'as beau expliquer un truc sur la physique quantique pendant 2h30 en te disant machin, on va te dire, bah, les cheveux, cette fois, j'aime pas trop, moi, comment ils t'ont fait, ou tu devrais penser sur rouge à lèvres. T'es là, mais vous êtes sérieux, quoi. Oui, évite les trucs, il faut que tu te dégages un peu, toi, le haut. T'es là, mais... Et donc, le reste, sinon...
C'est fou. Ah, et c'est intéressant. Et comme quoi, c'était déjà là, même avant les réseaux sociaux, en fait, à la télé.
Exactement, il y a quelque chose de l'ordre de toute façon. Le premier truc, elle parle, on... je pense. Enfin, ça évolue évidemment. Je sais pas. Même à l'époque, il y a aussi des gens qui ouais. sont pas comme ça. C'est pas pour faire des généralités.
Mais on la regarde avant de l'écouter.
Exact. Je pense. Ouais. En tout cas, c'était ce qui m'était revenu. En tout cas.
Mais si, c'est sûr. Et c'est vrai que je trouve que c'est un problème qui va jusqu'à la scène. Donc j'ai vu ton spectacle. T'as une tenue qui est très casual, qui est très belle, bien trouvée. Et je trouve que c'est un vrai. C'est dur de trouver la bonne tenue. Moi, c'est pour ça que je me suis mise en pyjama. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va m'écouter sans qu'on me regarde trop ? Qu'est-ce qui n'est pas trop féminin et qu'en même temps qui n'est pas trop Exactement. Masculin ? Et cette tenue de scène, justement, est-ce que tu t'étais posé toutes ces questions ?
Alors moi, c'est marrant parce que justement... Ouais. Moi, j'ai un... Enfin, c'est drôle. Pour le coup, je pourrais écrire une thèse sur les vêtements. Parce qu'à la télé, justement, moi, quand j'ai commencé, j'étais... moi, j'adore les vêtements, en fait. Parce que je trouve que c'est notre primo forme artistique le matin pour s'exprimer. C'est-à-dire qui on est ce matin. Qu'est-ce qu'on a envie de dire ? Qu'est-ce qu'on a envie de proposer ? Je sais pas. Et du coup, c'est quelque chose que... Ben, je trouve pas futile du tout.
Non.
À la fois futile et utile, si c'est possible. Donc voilà, donc c'est pas complètement anodin. Et puis j'adore ça à titre personnel, quoi, la mode comme forme artistique. Mais, et donc, assez vite, la costumière à Canal, en plus à l'époque, on était assez libre, elle a vite compris ça et on s'est beaucoup amusé à apporter des tenues très extravagantes. Alors au début, pour la météo, ok, pourquoi pas. Et puis après, même quand je faisais un truc plus journalistique, et j'avais été même convoqué à l'époque par le directeur des programmes qui m'avait dit, mais attends,
les tenues
bof quoi,
trop.
Et ben ouais, j'étais là, mais bof quoi, c'est-à-dire si je parle d'actualité, je suis obligée d'avoir un stylo derrière l'oreille et un col roulé et des lunettes possiblement. Et il m'avait un peu dit oui non, mais oui en fait,
trop belle.
C'était même pas, c'était trop...
trop de couleurs.
Trop sexy, ouais. Tu peux pas t'habiller comme ça si tu vas parler d'un truc sérieux. T'es là, ah bon, donc en fait, c'est pas faux. Parce que, enfin, c'est pas faux. Moi, je trouve ça débile, mais effectivement, les gens le reçoivent pas forcément. On m'a fait plusieurs fois la réflexion à l'époque à Canal. Ouais, mais bon, dis donc, toi, t'es... Et j'avais pas l'impression d'être venue en stripteaseuse, hein, c'est juste que mais effectivement le truc
ne collait pas. Ouais.
Et parce que quand on est une femme, on a une image, sinon ouais. c'est beaucoup trop. C'est-à-dire soit on est l'intelligente,
voilà.
soit
ouais.
on est la belle,
ouais.
soit on est la drôle.
Ouais. Ouais.
Auquel cas on est la moche aussi.
Ouais.
Mais soit on est... enfin bon bref,
c'est vrai.
C'est complètement.
C'est vrai. En fait, il ne faut pas renvoyer trop d'informations. Si nous oui. en face, on ne décrypte ouais. plus.
On ne sait pas qui vous êtes.
Quels sont ces signaux.
Et on ne veut pas vous connaître du coup conséquemment. Ouais. Non mais c'est quand même fou quoi.
Ouais, c'est vrai.
Alors qu'un homme, il peut être pluriel, il peut être un coup marrant, sportif,
Tout à fait.
Ceci, cela, voilà.
Tout à fait, et même un homme, il a le droit d'être beau sans être beau.
Ouais, un homme, il a le droit d'être vieux et beau.
Ouais, c'est vrai. Je t'écris un petit poème, Anne. Chère Anne, merci infiniment d'avoir accepté de venir dans mon podcast. Je suis très heureuse de te recevoir. Nous avons encore jamais eu l'occasion de parler longuement. Nous nous sommes seulement croisés à quotidien. J'adore tes chroniques. Tu y dépeins la société en passant par le prisme de tes déboires de maman. Tu observes les jeunes, les vieux, les changements. Comment être poli par texto ? Comment ne pas devenir boomer en ne disant plus « ok boomer » ? Tes filles semblent être une grande source d'inspiration et d'admiration. Je les imagine comme deux personnes assez sûres de leurs convictions. Quand toi, Anne, ton principal objet d'étude, ton sentiment prégnant est le doute. C'est ce qui émane de ton spectacle, une personnalité sensible qui remue ciel et terre dans sa tête pour trouver du sens. Le tout avec énormément d'humour. Parmi tes nombreuses punches, j'ai retenu celle-ci où tu supplies arrêter de vouloir nous consoler en disant « un de perdu, 10 de retrouvé ». On dirait qu'on parle de clé. Or, les clés, c'est lourd, ça fait du bruit et ça n'ouvre pas ma porte. En un mot, tu laisses passer l'émotion, comme quand tu nous parles de ton père qui n'aimait pas prendre les gens en photo. Merci, Anne.
Oh, merci, c'est adorable. Ça me touche beaucoup, j'aime bien la poésie. Alors c'est effectivement le doute, je m'aperçois, qui guide ma vie et un peu toutes les expériences que j'ai fait, que ce soit, c'était pareil la réalisation, c'était même pareil la télé en fait à l'origine, ça a été, j'ai l'impression que ça m'est arrivé par accident. Ce qui n'est pas vrai, en fait, quand on relit son parcours, je pense qu'on convoque les choses plus qu'on ne le pense. Moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était, par exemple, le livre, j'ai toujours... L'écriture, c'est vraiment mon socle. C'est ce qui a guidé, je pense, c'est ce qui m'a sauvé la vie, ça, et l'humour. Je pense que vraiment, ça a été une thérapie petite. J'ai assez vite compris que ça allait m'aider, en fait, que ça allait me... Oui, que ça allait m'aider. Et du coup, écrire un livre, pour moi, c'était l'accomplissement suprême. Et puis, j'aime bien ça, la littérature. Je respecte infiniment. Et je me disais, je me sentais donc évidemment pas légitime à combattre Bukowski, voilà, Salinger et compagnie. Donc, Sagan, tout ça. Donc, à chaque fois, je me disais, j'écrirais bien un livre, mais quoi ? Mais qu'est-ce que j'ai à dire ? Et un soir, je suis à une soirée, voilà, et on est plusieurs, et je comprends qu'il y a invité celui qui deviendra mon éditeur, Guillaume Robert, qui est chez Flammarion, et je raconte des histoires, celles que je raconte dans le spectacle, c'est-à-dire des histoires que j'ai, des expériences que j'ai faites. Là, je sortais de chez l'exorciste, par exemple, parce que c'était une dame qui m'avait donné ce numéro, parce qu'elle m'avait dit, tu vas voir, ça va changer ta vie, ça va t'ouvrir des perspectives. Et je l'avais fait. Et évidemment, c'était un peu n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Oui, non, j'en ai pas retiré grand-chose, si ce n'est que j'ai beaucoup ri. Et donc, je racontais l'expérience en me disant, mais c'est un délire, ce milieu des exorcistes. On ne connaît pas assez. Et du coup, voilà, je disais ça en riant. Mais quand même, j'ai essayé.
Ouais.
Voilà. Et bon, voilà. Et le soir, je me dis, un peu ivre, j'avoue. Je me dis, faut que je retienne le nom de ce gars parce qu'un jour je le recontacterai sur Insta parce que j'ai envie d'écrire ce livre. Mais quoi ? Et je m'endors. Et le matin, c'est lui qui m'avait écrit.
Incroyable.
Et du coup, c'est bizarre parfois.
Ouais. Mais synchronicité.
Ah oui, alors là, ouais. Et du coup, je le vois, etc. Et je lui dis, mais quoi ? Et il me dit, mais pourquoi tu racontes pas ce que tu racontais l'autre fois, là, les trucs
de survie
niqués que tu fais là.
Ouais.
Oui. Et je lui dis, oui, enfin, sauf que je ne vais pas faire un truc de développement personnel. Et il me dit, non, pas ça, mais il me dit, réfléchis autour de ça. Et du coup, oui, ça a été une occasion dans le livre de me... C'était une clé d'entrée pour...
Faire de l'anti-développement personnel, au final.
Complètement.
Quelque part.
Faire du sous-développement personnel. Et ça a été l'occasion de revisiter l'enfance, l'adolescence, parce que c'est un peu la source de tout quand on est un peu névrosé, mais tous, hein. Et puis justement la sous-couche là qui était pas dite parce que je voyais pas l'intérêt, mais moi j'ai perdu mon père donc en 2014 et je pense que quand on était j'allais dire vivant, enfin lui surtout, je pense qu'on s'est pas rencontrés en fait dans cette on s'est pas rencontrés parce que il travaillait beaucoup, parce qu'il était d'origine italienne, très taiseux, très éduqué lui aussi, d'une manière voilà très fermée, très pudique, très, enfin toutes ces les pères d'avant, hein, beaucoup, c'est-à-dire qu'ils s'autorisaient pas, je pense,
l'émotion, la vulnérabilité,
oui, voilà.
L'amour.
Et moi je lui en ai beaucoup voulu, ça a été assez conflictuel jusqu'à ce que j'ai moi des filles et que je le vois avec elles lui devenir enfin craquer sur elles et puis être touché par elles, et je pense que même lui ça l'a surpris en fait, et il s'est dit en fait c'est, je pense aussi que ça l'a mis en face de tout ce qu'il avait raté. Moi ça m'a un peu réparé. Mais quand même, en fait, ce voilà, qui était assez violent. Enfin, c'était quelqu'un de compliqué, quand même.
Froid.
Voilà. Ouais, très froid, etc. À vivre. Bon, après, je vais pas me plaindre. Je voulais pas en faire un livre en mode confession, machin, parce que ça n'intéresse personne. Pour autant, c'était aussi pour moi une façon de le rencontrer, en fait, ou de le faire exister, je pense, même pour moi. Parce que du coup, c'est compliqué de faire un deuil de quelqu'un qu'on... Bah, oui, qu'on connaît pas, parce que moi, il n'était pas dans ma vie, en fait. On ne s'appelait pas. Il était là, mais il n'était pas incarné dans ma vie. Et je pense que moi, j'existais sans doute plus dans la sienne, mais comme il ne me le disait pas.
Quand tu fais genre HEC ou le SCP, c'est ça, il ne te dit pas bravo
et... Ah non. Enfin, c'est-à-dire, au lieu. Déjà, je le fais parce que lui, il avait fait une grande école, donc tout est un peu en train d'essayer d'attirer l'attention. J'ai passé mon enfance à essayer d'exister à ses yeux, je pense, sur tous les plans, quoi. Et il m'a jamais dit ni je t'aime, ni t'es belle, ni je suis fière de toi. Après, ma mère, elle me disait toujours, il est tellement fier de toi quand j'étais à Canal, mais en fait, ou même quand j'avais fait mon film, mais même là, quand j'ai fait le SCP, je me souviens, c'est donc en école de commerce, à l'époque en tout cas, il y avait trois écoles à Paris, qu'on appelle les parisiennes, et qui étaient les meilleures, voilà, entre guillemets, apparemment, c'est là qu'il fallait être. Et le SCP, c'était à l'époque classé troisième, c'est-à-dire qu'il y avait HEC, l'ESSEC, le SCP. Et quand j'ai dit j'ai le SCP finalement, il m'a fait « Oh, bon, c'est la troisième.
Oh »
Ah. Et tout était comme ça, ouais.
Je vois très bien.
Voilà, oui. C'est mon film, après, il m'a fait « Ouais, bof. » Enfin, il m'a pas dit « Ouais, bof », mais il m'a jamais dit « Dis-donc, waouh !» Non, non, il m'a dit « Bon. » Enfin, il était là, il trouvait que c'était, je sais pas, jamais...
La comédie ?
Ouais, ou du bricolage, ou que c'était... Et il me disait tout le temps, lui, il était marseillais d'origine, enfin, italien, mais il s'était posé à Marseille, et il disait, enfin, après, moi, j'ai grandi à Paris tout le temps, mais il disait, ouais, tu devrais appeler Robert Guédiguian, que j'aime beaucoup, hein, c'est pas le souci, mais pour lui, ça, c'était du cinéma, et il disait, tu devrais l'appeler pour un peu te mettre, peut-être, au niveau, je sais pas, je me rends pas compte.
Puis un cinéma très viril, en fait, aussi, rien contre Robert Guédiguian, mais aussi un certain goût, quoi.
Complètement.
Ouais.
Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qui c'est fou, parce que souvent, les phrases que disent les... Je pense pas qu'ils sont conscients, les parents, de quelles phrases vont nous marquer ou pas. Ouais. C'est souvent celles, je pense, qu'on sort sans y penser, qui s'incrustent le plus profondément. Et lui, il disait toujours, c'est une phrase horrible, hein, il disait tout le temps, de toute façon, les femmes artistes, il y croyait quasi pas, lui. Hein. Il me disait, même quand c'est en cuisine, c'est des hommes, les chefs, en fait. Même quand c'est eux qui prennent la cuisine, genre en main, ils sont meilleurs que vous. Qui est soi-disant... Enfin, il ne disait pas ça comme ça. Mmh. Mais quand même, si, il le disait, ouais. En vrai. Et donc, toujours ce truc de s'autoriser ou d'exister ou d'avoir un intérêt, en fait. La dernière fois, je réfléchissais à ça. C'est l'impression d'avoir aucun intérêt, en fait, qui prédomine. Plus que le doute, encore. C'est ce truc de ne pas être ni désiré, ni aimable, ni même...
Mise en valeur.
Ouais, ou intéressante, même. Ouais, c'est le sentiment contre lequel j'ai le plus eu à lutter.
Waouh. Et vous étiez combien d'enfants ?
Moi, je suis fille unique.
Ah, et oui. Donc aussi, un poids là-dessus. Ouais. Vous ne pouviez pas répartir avec un frère ou une sœur, dire « il est chiant » et tout.
C'est ça.
Tu pouvais un peu, avec ta mère, peut-être un peu te plaindre ou non ? Elle se rangeait.
Ouais, mais eux, c'était un couple assez dysfonctionnel. Donc en fait, ils étaient, je crois... Et c'est compliqué d'être un enfant dans une histoire comme ça, parce qu'en fait, tu n'existes...
Quelle est ma place ?
Ouais, exactement. Et je voulais pas faire de vagues, parce que j'avais l'impression de déclencher des... Je voulais pas déclencher de disputes. Enfin, alors, c'était pas moi qui les déclenchais, hein, mais... Donc, voilà, j'avais un espèce de truc où moi, j'étais... Je me souviens avoir été vraiment une enfant très solitaire, pas forcément triste, hein, mais dans ma chambre, et de pas entendre, de pas la ramener, de pas faire de vagues.
Et donc, ton père, il faisait quoi comme métier ?
Il était ingénieur, lui.
Et ta maman ?
Et prof d'allemand.
D'accord. Ouais. Et donc, tu grandis d'abord à Marseille ou toujours à Paris ?
Ah non, toujours à Paris.
Toujours à Paris. Dans quel quartier ?
Montparnasse.
Ok, 14e. Ouais.
Donc, j'étais au lycée Montaigne. C'est dans le...
Ah ouais.
Et ma mère, c'est le 6e encore, Montparnasse. Oui. On était en haut de la rue de Rennes.
Ok, ok.
Non, je dis ça parce que ma mère, elle arrêtait pas de dire qu'on était dans le mauvais 6e.
Enfin, celui du côté de Montparnasse,
voilà,
bien sûr. Et pas celui plus Luxembourg.
Voilà, exactement.
Évidemment. Elle était prof d'allemand dans quel lycée, elle ?
Elle était dans un collège dans le 5e. Ça s'appelait Raymond Queneau.
Ok. Ouais. Oui, donc quand même aussi, j'imagine, pas mal de pression, des parents exigeants.
Oui, alors après, je ne le sentais pas sur l'instant.
Ah ouais.
Mais j'ai pas souvenir de conversation, mais c'était assez sous-entendu. Je pense que c'était un accord tacite, en fait, qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de... Moi, dans ma tête, il n'y avait pas d'échappatoire. Si je ne faisais pas... j'avais aucune... Je m'autorisais à rêver. Par exemple, la télé, j'avais envie d'en faire depuis longtemps parce que je voyais les nuls à la télé et tout. Je me disais, mais les gens gagnent leur vie en faisant ça. Ouais. C'est quand même un délire. J'avais envie de ça. Mais pour moi, ma voie, elle était toute tracée. Et si jamais, par exemple, je n'avais pas une école de commerce à Paris, je ne voyais même pas. Je me souviens, je me tapais des crises d'angoisse. Je me disais, mais tu vas faire quoi?
Qu'est-ce
en
qu'il
fait?
Y a d'autre?
Et j'avais 18, 19 ans, quoi. Donc tu te dis,
Et t'étais au collège, t'étais déjà un peu blagueuse ou bonne élève au contraire?
Ah non, bonne élève.
Ouais, sérieuse.
Ouais.
Ok.
Après, mon père, je pense qu'il a imprégné ça aussi, parce que, encore une fois, le peu que je... D'abord, il adorait le cinéma, donc après, c'est pas un hasard si... Et il était très drôle, mais très drôle, vraiment à l'italienne, vraiment pince sans rire, humour noir,
cinglant,
très très noir, quoi.
Ouais.
Très cynique. Lui, de toute façon, lui, il se détestait aussi, je pense, donc un truc très... Mais il pouvait être très drôle, donc, et ça, c'était un truc quand j'ai découvert aussi qu'on pouvait rire, qu'on pouvait en fait poser le cadre sur une scène pas marrante un peu ailleurs, ça m'a... Je me suis dit, ah oui, mais ça aussi, ça va m'aider, ça aussi.
Ouais. Ah ouais, rire de la noirceur.
Bah, rire, ouais, voilà, ouais. C'est ça, juste pour mettre en échec un peu. Puis ouais. Même, c'est une élégance de vie, je trouve.
Ouais.
Qu'on se doit, mais puis même pour les autres, enfin, je sais pas.
Si.
Moi, ouais, je trouve.
Bah oui, oui, si, c'est clair, ça aide. Moi, j'ai pas d'origine italienne, même si j'adore l'Italie et que j'y vais tout le temps et ma mère y a vécu. Mm-hmm. Mais c'est sûr que les origines ashkénazes, c'est ton inculque que de toute façon, la clé, ça sera dans l'humour, quoi. Il y aura forcément, oui. De toute manière, besoin de cette lunette.
Il y a ça, parce que les Italiens, ils n'ont pas ça. Enfin, ils ne le disent pas, en tout cas. Mais je ne savais pas que dans la culture ashkénaze, c'était très... Enfin, si ouais. Je vois bien que l'humour, l'humour juif, il est très présent et, ouais. Et très, très haut. Enfin, très, très bon. Très, très quoi ? Très, très efficace.
Il y a un truc de rire de ses malheurs. Oui. Et donc, au final, il y a quand même quelque chose d'accepter aussi de parler des malheurs. Et donc, au final, il y a peut-être quelque chose qui, parfois, le distingue d'autres cultures peut-être françaises où on ne parle pas des malheurs aussi.
Exactement.
On ne va pas dire l'angoisse ou quand ça ne va pas.
Mmh, tout à fait, ça c'est vrai.
Et après, tu fais donc ton lycée aussi à Montaigne ?
Non, je suis à Fénelon, bon, pas loin.
Ouais, ok.
Et
Première L ?
Non, ah ben non, non,
ah non,
moi c'était
mais...
ouais, ben oui,
eh oui
ah
ouais,
oui, non, non, moi
oui,
j'étais
des chemins de traverse,
oui, j'étais, mais tout était fait en, enfin, je crois pas qu'on m'a jamais demandé ce que j'avais envie de faire en fait, tout okay. était, c'est-à-dire voilà, j'étais en allemand première langue parce que c'était les bonnes classes,
ouais.
Filière scientifique parce que c'était
bien
la,
sûr,
la bonne
meilleure,
filière,
ouais.
Et il était hors de question que je fasse pas de prépa et moi alors quand même là j'avais dit non, maths sup, là je me sentais quand même pas, pourtant j'aime beaucoup les maths hein, moi, mais bon je bon, flemme quand même. j'aurais adoré faire Cagne et
ouais.
Hippocagne. Mais ça, on m'a vite fait comprendre qu'il n'y avait pas de débouché et que je n'allais pas finir okay. prof à la Sorbonne. Et j'ai fait, ah bon, d'accord. Donc, là, voilà, j'ai pris la filière médiane.
Et donc, prépa commerce.
À Carnot.
À Carnot.
C'était la meilleure. À Paris, enfin, c'était une des bonnes... prépa, apparemment.
Et à ce moment-là, quand même, t'es fière de toi ? Est-ce que à ce moment-là, tu t'es déjà dans le doute ou quand même t'arrives pour réussir ces concours à un moment t'auto... c'est que le travail ou c'est une forme d'auto-coaching où tu te dis j'en suis capable
Ah non. Ah non, au contraire, j'étais... Enfin, en plus, quand on arrive en prépa, alors c'est dur, hein, ça, ce truc. Je trouve que c'est fou, ce système, en fait. On a l'impression d'être vraiment en 1904,
ouais.
En culotte courte, avec un plumier, quoi. C'est-à-dire, c'est l'école de l'humiliation.
Ouais.
C'est,
ouais.
En tout cas, là où j'étais, parce que justement, comme c'est des bonnes prépas, on vous dit dès le début, de toute façon, si vous intégrez pas une parisienne, nous, on s'occupera... Enfin, bon,
vous êtes à la fois l'élite de la nation, mais vous êtes des merdes.
Exactement.
Ouais.
Et puis même, on nous dit pas trop qu'on est l'élite, hein.
Ah,
à ce
ouais.
moment-là.
Ouais, ouais.
Et on arrive, on est bon, quand même, parce qu'on a été sélectionné pour arriver là. Donc, moi, j'ai toujours été quand même dans les 2-3 meilleurs de ma classe. Enfin, sans me vanter, hein, c'était pas un choix.
Ouais, mais je sais comme
mais,
ça.
Et du coup, on arrive, on a deux en... Enfin,
ouais.
même dans les matières qu'on pense maîtriser.
Ils te font chuter.
Donc, c'est pourquoi, en fait, j'ai jamais compris après coup. Ce truc. Et moi, ça m'allait parce que sans vouloir me faire passer pour l'enfant au placard, mais l'humiliation,
ouais.
le fait de pas être... Donc, moi
j'étais toujours résiliente.
Je suis un bon soldat, moi. J'ai toujours courbé les chines et j'ai avancé. Mais à aucun moment, je me disais, j'en suis capable. C'était plutôt... c'était vraiment le petit cheval dans le mauvais temps. Et à un moment, je me suis dit, bon, je me suis rien dit d'ailleurs,
ouais.
jusqu'à ce que ça marche, quoi. Mais,
go, go, go. Mais quelque part, à ce moment-là, ça t'a servi de savoir fonctionner sans compliment.
Ah oui, peut-être. C'est vrai. Oui, ça, c'est vrai, ouais. Oui. Bah ça, c'est être une femme. Hein, ça
oui, c'est vrai.
D'une manière générale, après, autant la
oui.
prendre tout de suite.
Oui, oui, c'est vrai que les bravos sont peut-être moins nombreux. Et les encouragements. Et donc, résultat, et à cette école, à ce moment-là, est-ce que donc, c'est le journalisme qui t'attire quand même ou c'est envisageable ?
J'ai vraiment pas trop de... C'est marrant, hein, de rêve d'acteur, de cinéma.
Oui,
mais
passion.
Tout est très flou, puisque je connais personne dans ce métier. Je sais pas quels sont les métiers. Moi, on m'a jamais parlé de ces métiers-là, donc c'est pas possible pour moi. Donc je commence effectivement en me disant bon, l'écriture et tout, en me disant pourquoi pas le journalisme. Est-ce que c'est pas le moins pire ? Parce que ça voudrait dire que j'écris quand même, que j'ai quand même un œil ouvert sur le monde. Enfin, que je suis pas en train de faire de l'audit, quoi. Ce qui était la grande mode à l'époque. Et les gens gagnaient hyper bien leur vie à 22 ans et tout. Donc, t'es là, ah ouais. Mmh. Mais bon, non. Et donc j'ai fait ça. Sauf qu'en sortant d'école de commerce, bah, tout le monde s'en fout que vous vouliez être journaliste. Donc, j'ai trouvé que dans la presse éco, moi, ouais, financière. Donc, bon, alors je voulais être OL ou machin. Et voilà. Et bon, très bien. Donc, ça, et au bout d'un moment, je suis quand même restée 2 ans et quelques dans ce journal, là, au Revenu Français.
C'est une formation.
Non, mais en vrai, je dis
t'as
ça.
T'as su combien gagnaient les Français?
J'ai su que oui, qu'on gagnait pas sa vie en tant que journaliste débutant surtout. Puis, non, alors je dis ça, c'est marrant, mais on était quand même une équipe parce que comme c'était le Revenu Français, c'était un mensuel et ils lançaient un hebdo et c'est là qu'ils ont embauché toute une nouvelle équipe dont je faisais partie, dont beaucoup de jeunes et beaucoup de gens un peu, ils essayaient de faire un truc un peu moderne, machin. Et l'ambiance était ouf en fait. Et j'ai rarement retrouvé une ambiance de travail où on riait autant, vraiment.
Okay.
Et c'est drôle parce que je pense que, pour ça, ça me faisait penser à The Office ou des trucs comme ça. Je me dis, c'est vrai qu'il y a moyen quand même parfois dans des bureaux de rigoler vraiment beaucoup, quoi.
Ouais, ça se la pétait pas tant que ça à ce moment-là.
Non, pas du tout même. Ouais.
Les gens...
Non, on était tous...
Tout le monde savait que c'était pas passionnant, mais...
C'est ça, ouais. Oui, exactement.
Mais au moins, bonne ambiance. Après, j'imagine par contre que les places sont plus chères pour ensuite être à Canal.
Ah bah alors, Canal, pareil, je...
Un peu par hasard comme...
Ah mais complètement, c'est un jour de grosse déprime, je pense. J'ai appelé le Standard à Canal, parce que j'envoyais des... Moi, j'étais très scolaire, donc j'envoyais des lettres de motivation avec des CV partout, hein, aux chaînes de télé, machin. Bon, au pire, on me répondait pas, au mieux, on me répondait non, quoi. Donc, parce que je devais dire, mais je savais même pas quoi demander en fait comme poste, mais comme j'avais été formée comme ça, je me disais bon, bah, et un jour je fais bon allez, j'ai l'impression que Canal c'est une chaîne un peu différente à l'époque, je me dis allez, peut-être je pourrais leur envoyer une cassette, c'est ça le truc, et puis je sais pas comment faire une cassette, bref j'appelle, et j'appelle le Standard et je dis oui, il y a des castings, je sais pas trop ce que je dis, hein, sur le moment, le mot casting déjà, et la fille au Standard me dit oui, bah, c'est marrant, oui elle me dit complètement, il y a le casting pour la météo du midi pour remplacer Mademoiselle Agnès. Je fais « Ah bon ?» Et elle me dit bah, « Je dis, faut faire quoi ?» Elle me dit « Faut venir. » Elle me dit « Faut venir là cet après-midi, vous présenter. » Bon, moi, je dis « J'y vais. » Je dis que je vais à une conférence Rhône Poulenc ou je sais pas quoi. Je pars en métro, dans mon tailleur un peu. Je me dis « Mais j'arrive dans un truc où il n'y a que des quinmanes et des aspirantes comédiennes. Je me sens mais un pou, mais comme c'est pas possible, quoi. »
Bon, enfin, t'es très grande et très belle.
Ah non, vraiment, à l'époque. Non.
Tu te sentais pas comme ça?
Ah non, vraiment pas dans le truc, quoi. Il y a beaucoup de gens en plus. Bon, je finis par passer tout ça, et puis je sais pas, la fille du casting, elle ressemble à ma mère physiquement, elle est vosgienne comme ma mère d'origine, et j'ai un feat avec elle. Je vois que je la fais rire, en tout cas que je l'accroche. Elle se dit mais c'est quoi cet ovni, et elle me dit faut revenir pour faire une météo. Là elle me dit on sélectionne juste comme ça, c'est un entonnoir, vous revenez faire genre pas une chronique mais une météo, vous écrivez un texte, je sais pas quoi. Moi je rentre, je me dis ah, je vais écrire un poème à Evelyne Delia, une ode. Et donc je reviens faire ça. Là bon, c'est comme, tu sais, c'est comme les chroniques, tu fais ton truc, puis t'es dans un silence, puis tout d'un coup je les entends rire, je me dis ah bon bah OK, ça d'accord. Et puis voilà, et puis elles me disent on te rappelle, mais le truc est vraiment suspendu et c'est horrible parce qu'à ce moment-là dans ma tête, j'ai un peu comme pour le livre, hein. C'est marrant, j'ai un truc, dans mon cœur, je suis sûre que ça va marcher. Enfin, j'ai un truc dans mon organique qui me dit, putain, Anne, mais c'est... Et ma tête me dit, mais calme-toi, pauvre folle, tu vas être tellement déçue quand on va te dire non, quoi. Et le temps passe, il me rappelle pas, et pour finir... Elle me rappelle. Après, ça continue à se resserrer. Je vois les animateurs en entretien, gna gna. Elle finit par me rappeler juste avant l'été en me disant... en plus, c'était à l'époque, il n'y avait pas de portable, c'était des répondeurs. Donc, j'ai 4, 5, 6 messages sur toute la journée. Elle me fait « Ah, ça sent bon pour toi, je crois que c'est toi. Ah, c'est toi, ah, bordel !» Et donc, j'écoute ça. Je me souviens, le soir, j'étais là et j'étais toute seule encore. Il n'était pas rentré, mon fiancé de l'époque. J'étais toute seule à la maison. Et je comprends que je suis prise, en fait. Je fais « Mais non !» Et j'ai pris une douche, et je sais pas ce que j'ai fait, j'ai pris une douche en soutien-gorge, mais pas volontairement. Hein. Oh. Je me suis dit, je vais prendre une douche,
c'est une belle image.
Alors, je voulais prendre une douche juste pour...
Mais t'as oublié d'enlever le soutien-gorge.
C'est bizarre cette douche quand même.
C'est génial. Ah ouais, t'étais...
J'étais complètement bouleversée.
Là, ensuite, ça devient une maison, quoi, une famille.
Oui, alors après, oui. Alors ouais. Après, tout l'été, moi, je suis sûre qu'on va me rappeler pour me dire, désolé, on s'est trompé, c'est bête, c'était vraiment... non.
Pessimiste.
Pas pessimiste, mais le truc me semble trop énorme, quoi.
C'est-à-dire,
Moi, c'est vraiment là une chaîne que je regarde depuis longtemps. J'admire tout le monde dans cette chaîne.
Puis à ce moment-là, Canal, c'est les grandes années de.
Oui, c'est ça. Moi, je me dis, je viens pas du tout du sérail, j'ai rien à voir. Pour moi, c'est branché en plus. J'avais un petit problème avec ça aussi.
Mais cool, branché cool.
Mais moi, j'ai l'impression d'être pas cette personne. Et après, oui, après, je me suis assez vite détendue. Mais quand même, chaque fois que je badgeais, j'avais ce petit ping, ce petit kick.
Pourtant, t'es branchée et cool.
Non, mais tu vois, je te dis, pendant les années qui ont suivi, à chaque fois que je badgeais, je me disais, bon, ça marche encore.
Oh,
j'ai quand même conservé. Et après, c'est pas si mal d'avoir ça quand même aussi, de garder l'émerveillement, en fait.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Parce que la dernière fois, je voyais... Bon, c'était un moment, mais j'ai été voir Jamel sur scène, son dernier spectacle. Donc, ouais, c'était il y a trois ans, je ne sais plus. Et après, quand on se parle à la fin du spectacle, en fait, tout d'un coup, je me suis dit, c'est marrant, il a ça, lui aussi, quand même. Il n'en revient pas, mais c'est ce qu'il me dit. Il me dit, Anne, regarde. Il me dit, mais même encore maintenant, est-ce qu'on peut en revenir de ça, en fait, de se dire, oh non, c'est normal, ça, c'est normal. Voir une loge, avoir machin, avoir des gens qui... Non. Et moi, je trouve que là, pour le coup, je rejoins assez ce sentiment-là.
Oui, que rien n'est acquis. Et c'est marrant, tu sais que c'est un truc souvent des femmes ou des classes moins privilégiées. Mm-hmm. Ils ont vu ça avec Parcoursup.
C'est vrai?
En fait, c'est le gros problème de Parcoursup, c'est que tu dois toi-même décider de ton application. Et qu'en fait, les sociologues, les philosophes, les profs alertent en fait, sur le fait que des filles, même très très bonnes élèves, ne mettent pas les choix tout en haut. Et comme des élèves défavorisés ou de quartier, etc.
Okay.
Et donc, en fait, ils se discréditent eux-mêmes d'emblée.
C'est ça, donc ça biaise le...
Et ça biaise parce qu'en fait, t'as des gars totalement moyens.
Oui.
et qui disent, oh mais si, mais moi je peux, mais moi ça je veux.
Mais t'avais pas vu cette... Enfin, c'est pas vraiment une étude, où ils disaient quand on pose la question, c'est des trucs de, tu vois, de psychologie, des tests psychologiques, ils disent quand on pose la question à une femme sur un succès qu'elle a obtenu, pour comment elle a réussi, elle va dire trois, il y a souvent trois choses qui reviennent, qui est, un, j'ai beaucoup travaillé, qui est une façon j'ai eu de la chance, et j'ai été très bien entourée. Donc, c'est trois façons de se...
Déléguer.
Alors qu'un homme ne dit quasi jamais ça, en fait. Le même moins bon interrogé va dire...
Merci.
Merci. Ouais. Je sais, j'ai assuré là.
Ouais. Incroyable. Et ça, ce sentiment quand même dont tu parles aussi dans ton spectacle, au moment où tu passes à la réalisation, ce sentiment où tu dis d'illégitimité, quoi, où tu dis « oh, réel », c'est quelque chose que tu as, par exemple, combattu dans l'éducation de tes filles pour qu'elles, peut-être, se soient plus...
Oui, c'est que... Enfin, après, en fait, c'est marrant parce que quand on... Je sais pas, on n'est jamais expert en tant que parent, mais j'ai l'impression que quand on élève des enfants, du coup, on essaye de pas reproduire ce qui nous a fait souffrir. Du coup, on insiste beaucoup. Et du coup, je pense qu'on refile quand même la névrose. Je pense que c'est les deux bouts du même bâton, quoi. C'est-à-dire, je pense qu'à force de trop apporter de l'attention dessus, on... Bon, mais quand même, si sur la confiance en elle, j'ai l'impression que c'est quand même moins pire que moi. Ouais. Et c'est vraiment un truc nul, je trouve, le manque de confiance en soi, parce que ça sert à rien, c'est handicapant, c'est chiant pour les autres aussi, parce qu'au bout d'un moment, ils sont là, bon, c'est bon, parce qu'on le fait...
Défends-toi.
Ouais.
Allez.
Ouais, puis on l'imprime à tout le monde, on est là, c'est espèce de... Ah, c'est pénible, je trouve ça... je trouve ça con, en fait. Non mais c'est bon, après c'est dur de s'en défendre quand même, mais...
C'est vraiment le travail d'une vie, hein, de trouver la bonne balance, de savoir...
Parce qu'en vrai c'est le truc aussi, je pense que, et c'est pour ça que le développement personnel ça peut être vraiment un piège, je trouve, et puis là de plus en plus c'est tellement galvaudé, etc. Il y a des trucs vrais, mais bon là ça devient vraiment tarte à la crème, et est-ce que c'est pas justement d'accueillir nos erreurs qu'il faudrait, et se dire quand on est mis, et de rire et d'arriver à se dire quand on est minable et tout, je trouve que c'est un bon moteur aussi, bizarrement, en fait. C'est-à-dire tous les échecs ou tous les trucs, en fait, souvent le fait de savoir que je vais en rire avec mes amis le soir ou le week-end, ou quand je vais les voir, en tout cas, Bah, en fait, quelque part, je me dis, bah, je ramène un os, en fait, et on va rigoler de ça, en fait. Et savoir qu'on est tous faillibles, tous ensemble sur cette planète, et qu'on est tous sans écailles, tout nus dans le vent. Bon, bah, c'est ça qu'on est, en fait. Il n'y a pas de...
Ouais, c'est vrai, c'est une des clés que tu donnes sur un peu de dire, c'est OK, la loose. Tu dis, à un moment, aujourd'hui, on doit tout réussir. Merde, on doit même réussir son burn-out.
Ouais. Oui, oui, c'est ça, ouais.
Et tu sais, maintenant, tu dis, cet article de Libération... Ah non, attends, c'est quoi? C'est mon copain qui me parlait d'un gars dans son entourage. Alors, il fait un burn-out, mais pendant son burn-out, il a créé un blog ou une newsletter sur laquelle il commande son burn-out, et elle est géniale. T'imagines ? Il doit produire contenu intéressant pendant qu'il fait son burn-out. Tu veux pas juste rester dans ton lit ?
C'est ça. Ouais, c'est exactement ça.
C'est fou.
Bah ouais, c'est fou, hein.
Et toi, parfois, tu t'es... Parce que donc, dans le spectacle... Le tien, ce burn-out, ce moment de chagrin, il intervient après une rupture amoureuse.
Alors, ouais, je dis, en fait, c'est le déclenchement, c'est ça qui m'avait amené, mais ça, c'était à l'époque où j'étais à Canal, c'était il y a longtemps, c'est ça qui m'avait amené chez la psy, en fait. C'est la première démarche consciente que j'ai faite en me disant, je ne fonctionne plus, en fait. Je ne fonctionne plus. Et c'est chiant, en vrai, de pas rigoler, de tout trouver triste, d'avoir les larmes aux yeux dès qu'on voit un labrador, pour zéro raison. Bon, c'est chiant. Et donc, et la psy, effectivement, moi, ça m'avait pas mal aidé. J'ai mis du temps, mais ça m'a bien aidé quand même. Parce que j'étais pleine de... Oui, on est plein de certitudes, très jeunes, de réflexes, de gna. Et voilà, donc ça a été le... Et à partir de là, effectivement, c'est pas forcément l'amour qui a déclenché, mais des moments de vie où on se sent nul, où les propositions arrivent pas, où plein de choses, en fait. Voilà, c'est une façon de... Après, ça a été une façon de conduire ma vie, d'essayer de cette colonne vertébrale, là, de se tenir droit et en tout cas, si ce n'est d'aller bien, si le bonheur, c'est quand même très... au moins d'essayer de savoir quoi faire dans l'adversité, en fait, juste
se
ça.
Se réinventer.
Oui, voilà. Oui, à minima, ouais, si on peut s'en sortir par le haut, tant mieux.
Ouais, et choisir le chemin vers la réalisation. Pareil, ça c'est...
Pareil, accident total, ouais. Puisque j'avais écrit le film... Le jambon, j'avais écrit le film et mon producteur, à un moment, comme en France, il n'y a pas... Alors, ça, c'est en train de changer un peu maintenant, mais il y a une tradition d'auteur-réalisateur, il y a peu de faiseurs, juste réel. Et du coup, il avait proposé à deux, trois personnes qui avaient dit non, en gros. Et donc, à un moment, il me fait... Et comme le truc était vraiment bien lancé, on avait les financements, les diffusions, le tout. Et il me dit, tu vas le faire.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En fait, je lui dis, mais c'est-à-dire, je vais le faire, moi. Il me dit, si, tu vas le faire. Ah, d'accord. Donc, j'ai acheté des livres de réal pour essayer de savoir c'était quoi un réal. Déjà, je ne savais même pas, moi. J'étais là, mais c'est quoi un réal? et du coup, et c'est drôle parce que ça aussi, ça, en fait, chaque petite pierre, enfin, petite pierre, c'était une grosse pierre, ça, mais chaque pierre à l'édifice, ça m'a fait grandir parce que ça porte bien son nom, quoi, la réalisation, quoi. On est obligé, on a réalisé quelque chose. Voilà, là, on peut pas le mettre en doute. Ça existe, on est devant. C'est comme un enfant, donc c'est comme un livre, c'est quelque chose de tangible, en fait.
Ouais, c'est vrai, c'est un objet. D'ailleurs, c'est qu'on a une connaissance en commun, Joséphine Dry, qui joue dans ton téléfilm.
Oui, complètement, j'adore Joséphine.
Ouais, elle est trop marrante.
Oui, et puis elle, elle aussi, elle est intéressante, justement, sur
son parcours. D'écriture.
Pareil,
elle est venue dans le podcast.
Ah ouais,
ouais.
Ah oui, elle est démente, Joséphine, c'est vraiment, j'aime beaucoup cette fille. Ouais, beaucoup, beaucoup. Et j'étais ravie, ça faisait longtemps que je voulais travailler avec elle, donc...
Et là, tu as d'autres projets de réalisation ?
Oui, j'espère. Après, c'est toujours pareil. J'ai l'impression que plus il y a de guichets, plus c'est compliqué. Mais oui, si. Voilà. Après, c'est long à.
Ouais.
C'est long à mettre. Toi, t'en as ?
T'aimerais
bien, non ?
À un moment, je m'étais un peu chauffée, justement, après la sortie de mon bouquin sur l'adaptation en scénario pour une série. Mais je pense que j'ai été un peu. Enfin, tu vois, on m'a dit, ouais, si, c'est bien parce que tu es humoriste, donc il faut que tu fasses un truc marrant, et puis voilà, et puis tu vois, puis pourrait y avoir des guests, et puis en fait, il faut que ce soit du court. Et au final.
Oui, ça ressemblait pas à ce que tu
voulais,
toi.
Bah ouais, je me suis mise à faire un truc formaté parce qu'on m'a dit, c'est ça qui marche, et à devoir défendre un truc, je sais même pas si ça me ressemblait.
Mais c'est ça, mais oui, je suis d'accord.
Tu vois? Et puis là, en
puis
même...
ils en savent rien, ce qui marche en
non,
vrai.
Non, et si on le savait... voilà, si on avait la recette...
Ouais, tout marcherait,
non.
En fait.
Ouais, je pense qu'il marche, c'est quand toi, peut-être, t'as une forme d'intime conviction de ce qui marche, mais peut-être qu'à ce moment-là, je l'avais pas...
C'est quand t'as une intime conviction de... En tout cas,
que
toi,
tu veux dire.
Ça te plaît. Tous
voilà,
les matins, tu te réveilles en disant que c'est nécessaire de raconter cette histoire.
Ouais.
Et que surtout, après, quelqu'un adhère à cette vision
c'est
et
ça.
Te fout la paix sur ça. Parce que
exactement.
Enfin, te fout la paix. Ou en tout cas, t'aide à éclore ce truc. Parce qu'ils se disent, c'est la seule façon, en fait.
C'est
hein,
ça, ça lui ressemble. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est les bonnes personnes, peut-être au bon moment. Tu vois, finalement, en mai, j'ai tourné dans un film, j'avais un petit rôle. Et j'ai rencontré Lionel Abelansky, le comédien. Et qui a lu mon bouquin. Et je te l'apporte aussi. Mais parfois, je sais pas, mon bouquin, il y a un truc où, enfin, je le donne un peu, mais tu sais, aux invités du podcast, donc là, à la fin, mais parfois, si les gens ne le lisent pas ou quoi, tu vois, il n'y a pas de... Donc, il le lit, en fait, lui, puis il m'appelle.
T'es un peu comme moi, toi, j'ai l'impression, dis donc.
Et donc, je lui dis, ah bon, tu l'as lu? Ah ouais, ok. Et il a aimé, il m'a dit, ah mais faut que tu l'adaptes. Et j'ai dit, ouais, j'avais... Puis donc, je lui raconte mon truc de série, il me fait, ah non, mais... Non mais c'est un film.
Oui.
Et en fait c'est beaucoup plus auteur et c'est beaucoup plus toi et puis c'est ton côté un télo
faire.
Et puis ton bouquin il est pas tout le temps marrant. Enfin il y a un truc.
Oui.
Et je me suis dit ah putain bah oui il l'a mieux compris en fait.
Bien sûr. Il y a il y a des grilles de lecture donc bon
des délais et des longueurs et au final c'est vrai que c'est ça c'est ce temps pour faire lire et avoir une réponse d'où aussi la joie peut-être de l'écriture en chronique. Je sais pas ce que t'en penses. C'est toi le plaisir mais de l'immédiateté.
Exactement. Oh ben ça c'est ça c'est super. De toute façon, alors c'est super et c'est quand même l'écriture. Moi je sais pas quel est ton rapport à l'écriture. C'est quand même une douleur aussi. Hein. Oh là là. T'es quand même en boule dans ton canapé, tu sais pas, et t'écris deux mots, tu vas chercher un yaourt et tu t'endors et tu reviens et tu regardes petit secret entre voisins.
Moi, je me fais chauffer du lait d'avoine, je mets du curcuma dedans, je me dis c'est bien, ça va me donner plein d'idées.
Si très bien, je vois, je peux faire ça aussi. Tiens, si je faisais un banana bread, elles vont pourrir ces bananes, voilà. Bon, voilà, tout est bon pour ne pas s'y mettre. Et puis après, moi, voilà, c'est l'heure. Après, les enfants, elles rentrent. Et puis, en fait, juste au moment où j'avais la vague, c'est un peu là.
Trop tard, faut s'occuper d'elle.
En fait, non, demain, je le ferai demain. Bon, bref, ça peut être aussi une douleur. Après, c'est comme au ski, je trouve. C'est-à-dire, vraiment, il y a beaucoup de temps passé à mettre sa combi, prendre les œufs, faire tomber ses bâtons, avoir froid. J'ai envie de faire pipi. Et puis, la glisse, après, ça dure 2 minutes.
C'est
je trouve,
vrai.
Non?
Si, t'as raison, c'est une belle métaphore. Je l'ai vraiment, là, je l'ai sous les yeux, le temps de mettre ces putains d'après-ski.
Tu
mets 100 ans à mettre,
ça.
Et tu te fais mal, puis ça coûte cher, et puis il faut monter, et puis zut, et c'est déjà fini. Mais ce zut est pas désagréable.
C'est pour ça, hein, sinon personne le ferait. Mais c'est vrai que. Ah oui, non, ça peut même être très. Tu voles quand tu. C'est pareil quand tu réalises, tu verras, parce que je doute pas que ça se fera un jour. C'est vraiment un moment où je sens presque physiquement où t'es. Comme ça, après avoir tout ça, gravi tout ça et tout, le moment où tu. Où t'es sorti justement des financements, de l'écriture, du casting, du machin, des trucs, ça y est, tu tournes. Tu voles, quoi.
Ouais.
L'impression d'être un aigle royal, quoi. Là, tu vas où tu veux, c'est toi qui décides de tout, la couleur de la moquette, comment on dit quoi. Alors que dans la vie, je suis le contraire de ça. Là, tout d'un coup, il y a quelque chose de très...
De très cadré.
De très cadré, de très doux, de très organique. Vraiment, j'adore ça, quoi.
Ouais, j'ai eu l'occasion de réaliser un court-métrage en 2014 et une petite pub après.
Ouais.
Et j'avais adoré, en effet, en m'entourant d'un chef-op et d'un bon premier. J'avais adoré, j'avoue, la hiérarchie assez saine et respectueuse, en tout cas. Et en même temps, le côté travail collectif. Petits talents qui s'ajoutent les uns aux autres.
Ah ouais, l'équipe, c'est fou, quoi. Ça, je suis d'accord,
Et comédienne, dans ta carrière, de cette position-là, c'est quelque chose que tu as...
C'est drôle parce que je pense que c'est quelque chose que je me suis... je pense que c'était mon vrai rêve. Et je pense que c'est quelque chose que je me suis interdit. Parce que pareil, je me suis interdit, ou si ça n'intéressait personne. Mais être dans le désir de l'autre, être à la fois, c'était ça que j'aurais respecté, mais je pense que c'était trop douloureux aussi. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir sacrément les épaules, je trouve, pour... Et d'ailleurs, j'avais vu une interview de Nathalie Baye qui était assez... qui était super parce qu'elle disait ça, elle disait en fait les gens qui durent, c'est les gens qui traversent ces moments de où le téléphone ne sonne pas et qui traversent ces moments sans tomber, sans se détruire, sans qui traversent ces moments la tête haute en attendant que ça reparte et sans douter que ça repartira.
C'est une philosophie du vide quoi.
Quand on est que là-dedans. C'est pour ça que du coup l'écriture et tout, faire, réaliser, avoir les mains dedans, ça nous sauve quand même de ça. Parce que j'imagine que ça doit être, et même pour des actrices très connues, on voit bien qu'il y a des moments où ça, on ça a être. Envie des gens et des moments où on n'a pas envie des gens. Après ça c'est la vie, c'est même hyper injuste. Hein, ça se décide pas, on peut rien y faire. C'est quand même... Mais pour autant, les expériences que j'ai eues, j'ai adoré ça aussi parce que je trouve que c'est trois pratiques qui se donnent la main. Écrire, réaliser, jouer.
Ouais.
D'ailleurs, quand tu fais ta chronique, tu joues en fait.
Bien sûr.
Parce qu'on apprend, elles se nourrissent les unes les autres. Voilà. Mmh. Et je trouve pouvoir... moi, si je peux continuer à faire ça, comme ça, en patchwork, je serais ravie, en fait. Je serais comblée.
Et l'écriture de ton bouquin, justement, à ce moment-là, donc il y a une écriture beaucoup moins rapide, stressée que celle de la chronique. À ce moment-là, tu t'y plonges, tu prends du plaisir
Ouais, et ça va assez vite. Moi, de toute façon, et d'ailleurs, ça m'a toujours complexée, ça va assez vite, en fait. Je fais les choses assez vite. Pas toutes, mais écrire, les trucs professionnels, même parfois, même je me souviens, les entretiens, justement, en école de commerce ou quand je cherchais un boulot, les gens, ils sont là, ouais, ça dure genre une demi-heure, une heure. Moi, au bout de 20 minutes, j'étais sortie et à chaque fois, je me disais, mais... Ça me ramenait à ce truc, ça n'a aucun intérêt. Donc, parce que je. Mais pour l'écriture, j'ai l'impression que. Je ne sais pas si ça te fait ça aussi, et ça, c'est génial pour le coup. J'ai l'impression que parfois, on travaille sans le savoir.
Ah oui.
Et, donc, et quand tu t'assieds, il sort un truc, tu ne sais même pas que c'était là, tu es là. Ah ok, d'accord. Donc ça, d'accord.
Oui, ça, c'est très magique. Et ça, d'ailleurs, ça limite, ça te ferait croire aux exorcistes et à toutes les folies.
C'est vrai.
Parce qu'il y a quelque chose, l'inconscient est tellement.
Oui.
Au travail.
C'est ça.
C'est vrai que c'est fou, ouais.
Et donc, pour le livre, ça m'a beaucoup fait ça. Sachant que j'avais quand même... comme j'ai toujours écrit, j'avais des bribes un peu dans mon ordi de... Et tout sert, je
de
trouve,
notes.
À un moment.
Ouais,
dans la vie,
ouais.
Ça qui est génial aussi. Ouais, de notes, de début de roman, de fin de scénar, de je sais pas quoi. De trucs dont j'avais envie de parler, de bribes de spectacle que j'avais même pas pensé à faire à l'époque. Mais j'avais quand même envie, mais comme ça, dans l'absolu. Donc j'avais quand même des trucs. Et tu dis, en fait, ce truc-là, si tu l'assembles, c'est déjà un peu là, en fait.
Ouais.
J'avais quand même un peu de matière. Et du coup, quand je m'y mettais... et en plus, après, moi, je suis un peu scolaire, j'ai besoin d'être encadrée. Donc, avec Guillaume, quand je lui envoyais, on s'était dit, il avait compris ça de moi. Donc, il m'avait dit, tous les temps, tu m'envoies...
Je lui envoyais
deux chapitres tous les mois ou un truc comme ça, même pas tous les 15 jours. Et ça avançait comme ça. Moi, j'attendais qu'il me dise si c'était bien ou pas bien, comme ça. J'attendais ma croquette. Mmh. Et puis, voilà, quoi.
Mmh. Ouais, donc c'est aussi une rencontre avec un éditeur.
Oui, complètement, oui.
À ce moment-là, tu ne te dis pas, tiens, ça va devenir un spectacle, ce livre.
Non.
La sortie, c'est aussi parce que ça a super bien marché en librairie, qu'il a continué à vivre et...
Non, le du livre, tu veux dire
ouais.
Non, c'est le spectacle, c'était parce que c'est notre producteur commun, d'ailleurs, qui...
Alexandre Mortier.
Ouais, qui a voulu... qui m'a demandé si ça m'intéresserait.
Mmh.
Et j'ai dit, oui, du coup. Au début, moi, j'ai commencé à faire un travail sur... je l'ai lu. Ma voix haute, bon, ça durait 4 heures, on était en mode des lectures reloues à la BNF. Donc après, j'ai dit, bon, et de moi-même, il y a des pans entiers qui sont tombés en disant, bon, ça, non.
Mm-hmm.
Et puis, on a fait un peu en diacomitie, quoi, petit à petit, en fait.
Par touche.
Par petite touche, on l'a asséché pour le rendre plus efficace. Et on a même continué là, puisque il a perdu un quart d'heure à peu près par rapport à ce que toi t'as vu, puisqu'au point virgule, on fait une heure. Donc, et ce que je trouve super, moi.
Mmh.
Parce que plus c'est concis, en fait, et plus c'est. Voilà.
C'est fort.
Ouais, plus, enfin, en tout cas, plus efficace, je trouve. Ouais.
Et la rencontre avec Lutz, Alors Alex, je le connais depuis longtemps, mais depuis son premier spectacle, mais sans le... Je sais pas si tu vois, il y a des gens parfois, tu les...
croises.
Ouais, tu sais que tu les aimes et puis et que c'est réciproque. Mais bon, tu te vois pas pendant longtemps, mais tu... Voilà, tu, c'est comme les planètes, un peu, tu gravites dans la sphère comme ça. Et on se voyait de loin en loin pour des petits trucs. Hein. J'avais fait un petit truc dans leur émission sur Canal, un petit sketch. Parfois, on se croisait à un dîner, un machin, bon bref. Et une fois, je lui avais dit ça, je lui avais dit, ouais, mais j'aimerais bien, moi... monter sur scène, enfin je le disais sans y croire, et il me disait, bah écoute, oui, il me dit, moi ça me dirait de te mettre en scène si tu le fais. Et j'avais dit, ah ouais, bah, comme ça tu m'écris un truc. Il m'avait dit, non, t'as pas compris. En fait. Il m'avait dit, non, toi tu t'écris un truc, ouais. Et après, si moi j'aime bien le truc que t'as écrit, éventuellement je te mettrai en scène. J'étais, bon, bah encore raté. Donc, et comme on a sorti en même temps le livre chez Flammarion, lui, ouais. Il a sorti un livre qui s'appelait Radiateur d'appoint, et moi j'ai sorti mon livre, et on a lu nos on s'était envoyé avant nos manuscrits pour voir ce qu'on en pensait, parce que oui, quand même, on valorise la vie l'un de l'autre, je pense. Et moi, j'avais adoré le sien. Et lui, il avait beaucoup aimé le mien. Et du coup, quand il a été question, je lui ai ressorti cette vieille conversation. Je lui ai dit, bon, ben voilà, maintenant, c'est ça. Alors, tu le fais ou pas? Et il m'a dit, oui. Donc, oui.
Ouais, c'est bien. C'est une curiosité. Ça, c'est, je trouve aussi, peut-être, le travail d'écriture ou de chronique, c'est peut-être aussi le petit plus... Outre le métier de comédienne, le fait d'être occupée, c'est l'exercice de s'intéresser à d'autres, de s'intéresser.
Oui.
C'est vrai que moi, là, je suis contente pour Inter et Quotidien, si jamais ça continue, parce que ça me force aussi à mettre le nez dans l'actu.
Merci, oui. Et puis même à... Alors, moi, au début, je t'avoue que c'est la troisième année que à chaque fois je me dis bon, déjà à chaque fois je me dis qu'on va me virer, donc ça, c'est ça, j'ai l'habitude. Mais après,
je prédis ça toutes les semaines.
Ah, toi aussi. Ah, oui. Oui, toi t'es bien aussi. Hein. Non mais et alors maintenant que j'ai quand même un nouveau truc un peu, je me dis mais toi, ce serait bien des fois que tu pars de toi. Toi, t'as envie ou t'as pas envie? Alors oui, j'ai envie. Pour autant, je me dis bon, c'est beaucoup de... Comme on disait tout à l'heure, hein, l'écriture, c'est compliqué. Et je me dis aussi ça. Je me dis, oui, mais ça s'entraîne aussi quand même. Mais c'est quand même une chance de pouvoir s'exercer, en fait, hein, comme un sportif, comme un musicien. C'est de là. Hein, donc, d'être là à écrire et de se forcer à écrire. Et même les fois où on ne veut pas, et même les fois où on croit qu'on n'a pas d'idée. Voilà, c'est comme ça qu'on maintient la source, je pense.
Ouais, et puis c'est bizarre, mais justement sur la confiance, je trouve que d'avoir un petit bout de maîtrise sur l'actu donne un peu confiance en soi.
Oui, je suis d'accord.
C'est vrai que, parce que sinon on écoute un peu les autres, on les laisse parler, c'est vrai que peut-être avant je me disais, ouais, j'avoue, je connais pas, j'ai pas compris.
C'est vrai.
Alors que là, je comprends que tout le monde fait aussi un peu semblant de comprendre.
Mais bien sûr.
Et qu'il faut recouper, se tenir. Alors parfois, il y a un côté aussi anxiogène et douloureux, parce que tu mets le nez, peut-être qu'avant j'étais quand même très dans les sujets de l'amour et tout.
Oui.
Et que là je me dis ok, alors ah oui, donc vraiment la planète brûle.
Oui.
Ah oui, donc vraiment en Arménie c'est des milliers de personnes, enfin bref, là l'actu c'est dur, mais si t'es dans le bon équilibre quand même, tu t'informes. Et après je trouve que résultat, même en société, tu vois, à des dîners ou des... Parfois j'ai l'impression que là depuis quelques semaines je suis un peu plus sûre de moi.
Oui.
En disant, pas du tout. Ça, c'est chouette, au moins, de maîtriser un peu mieux ça.
Oui, puis de toute façon, en plus, t'as raison, c'est une époque tellement... c'est compliqué, ça. Moi, j'ai grandi dans un truc avec des journaux où il y avait des éditos et de l'information, qui étaient déjà deux choses différentes. Et là, il y avait la télé, qui était déjà... un rang au-dessous, à l'époque, si on voulait s'informer. Et là, en fait, ça a explosé comme une espèce de... Tout est parti en spray, tout vaut tout, les sources d'informations coulent de partout, donc on est recouvert d'un magma de trucs où on ne sait pas qui a dit... Plus personne ne prend la peine de vérifier quoi, qu'est-ce... Parce que c'est tellement rapide aussi, maintenant. Et là, le robinet est ouvert à fond. Donc, et du coup, c'est... Moi, je trouve ça compliqué, en fait. Et même, c'est pour ça que je trouve ça fou, les gens qui se permettent, là, les réactions à chaud, les ceci, ouais. On condamne ci, on dit ça, on dit oui, non, oui. Mais toi, mais qu'est-ce qu'on en sait? Enfin, on n'a même pas commencé à réfléchir, on ne sait pas ce qu'on va manger ce soir, mais on sait, on a un avis sur... c'est waouh!
Oui, quoi. Le temps est très court. le temps est très court, mais parfois tu te dis que si c'est pas toi qui influence, c'est toi qui te fera influencer. Et donc je me dis au final, on est obligé d'un peu se renseigner parce que sinon on va être influencé.
Oui, non, mais je
parce...
mets pas en doute le fait de se renseigner, mais c'est justement.
Mais on se fera influencer par le premier truc sur lequel on tombe, qui parfois est une intox ou un machin ou
et
un.
C'est pour ça que t'as raison. Je trouve ça pas mal d'être obligé aussi de se pencher sur voilà. Et en ça, pour ça, en plus moi quotidien, c'est vraiment une mission que j'adorais déjà avant sur ça, sur le traitement de l'actu et tout. Quoi qu'en pense certains qui sont là, oui. C'est bobo, oui, bon, bah peut-être, mais en tout cas, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui se déplacent quand il y a un truc d'actu, qui vont sur place, qui interviewent, qui ont des. Enfin, qui croisent l'info, qui consultent des gens intéressants. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai travail que je vois pas partout ailleurs, même sur certaines chaînes d'info. Donc, et donc, on apprend. Enfin, moi, j'apprends des choses. Hein, franchement, à chaque fois que j'y vais. Alors, du coup, avant, je la regardais tous les soirs. Maintenant, je regarde plus parce que j'ai peur de me voir. Donc, je regarde quand j'y suis, en fait. Ouais. Moi, j'écoute quand j'y suis. Mais déjà ça, effectivement, ça, je suis d'accord avec toi. Ça remet en perspective et tout parce que c'est trop. Sinon, comment tu veux te faire une
Et chaque semaine, comment tu te dis « Ah tiens, ça va être mon sujet ?»
Ouais, ça, c'est dur, ça. Ouais. Toi, tu sais, toi ?
Bah non. Ouais. Bah, après, moi, c'est... déjà, c'est peut-être plus facile, c'est que je dois rebondir sur un truc d'actu. Ah, d'accord, toi, c'est un billet d'humeur, donc il faut
sauf
que ce soit...
Sauf que maintenant, on s'est aperçu que quand même, c'était plus efficace si on le reliait à quelque chose d'actu. D'ailleurs, je le sens même moi. Ouais. C'est-à-dire que moi, si on me laisse, je suis comme trop toi, c'est-à-dire j'ai envie de parler de la dignité, de je sais pas quoi, tu vois, de trucs, de concepts, de philosophie, de trucs. Maintenant, oui, il parle de la dignité, mais essaye de le ramener à quelqu'un qui l'est pas, par exemple, en politique ou à je sais pas quoi. Mais oui, quand c'est... Parce que tu sens que les gens sont plus... Ça les touche plus s'ils en ont entendu parler. C'était complètement hors sol dans une émission comme ça. En tout cas, moi, me concernant, c'était compliqué, quoi. Donc, moi aussi, pareil, c'est... Donc, oui, il y a des sujets d'actu, donc évidents. Il y en a qui sont évidents, mais dont on n'a pas envie de parler.
Parce que c'est trop dur.
On n'a rien à dire d'intelligent, là, pour le coup, j'avoue. Bon. Oui. Bon, voilà, c'est une petite navigation comme ça. Ouais, l'humeur, c'est pas évident. Hein, parce
c'est pas évident. Et je remarque que toi, dans tes thèmes, souvent, au final, ce qui t'intéresse, c'est presque le générationnel, je trouve, beaucoup.
Oui, souvent, Oui, parce qu'en fait, c'est souvent, d'ailleurs, ce qui nous fait rire là, avec mes fils. Et je leur dis, mais ça a tellement changé. En fait, je trouve notre génération intéressante parce que ça... Enfin, je parle de la mienne plus que de la tienne. Mais ça a tellement changé avant, après. Et on a pris quand même ce train. Donc, mais on sait comment c'était. Donc, on n'est pas complètement démunis devant Internet et tout, quand même. Pas du tout, même. Mais on n'a pas grandi avec. Donc, on a vraiment un regard. Il y a des choses qui ont changé. J'ai l'impression qu'on est en train de muter, même, en fait, le cerveau et l'humeur, la société en général. Ça a fait des changements telluriques, en fait. Beaucoup plus que ce qu'on croit, je pense.
Ouais, c'est énorme. Et puis, en plus, toi, tu mets le nez dedans, dans le sens, c'est quoi être dans le coup? Comment ne pas se ringardiser? Je trouve que c'est honnête et c'est chouette. Et c'est un travail que, finalement, peu de gens font. Parce que sinon, il y en a qui s'auto-déclament cool. Mais ou alors qui décident que les jeunes nous font chier.
Oui, oui, bah ça, tout le temps.
Ouais. Et c'est vrai que... Et en plus, en ce moment où il y a des vrais clivage.
Oui. Révolutions. Ouais.
Mais c'est bien de se dire, ok, mais qu'est-ce qu'on a en commun et comment on se parle et qu'est-ce que... Et en même temps, parfois, moi, j'ai trouvé la solution au fait de... C'est de revendiquer de ne pas être cool ou de dire...
Oui, mais complètement.
Ou à l'inverse, de dire c'est les jeunes qui ne sont pas cool. Quand tu es revenu de vacances et tu as dit, mais attendez, les jeunes, c'était quoi leur vision de la vacance? Ils n'étaient pas cool en vacances.
Oui, c'est ça. Les gros... Des gros... de droite.
Ouais, c'est ça.
Non, mais et aussi non, parce que j'aime bien mettre en perspective aussi, même historiquement. Ça, c'était, j'avais une prof géniale en seconde d'histoire, je me souviendrai toujours d'elle, et madame Junk, elle s'appelait. Et elle faisait ça et je trouvais ça ça m'a ouvert une porte et que j'ai jamais cessé depuis d'explorer. C'est qu'elle nous apprenait l'histoire à la lumière d'aujourd'hui et vice-versa. C'est-à-dire qu'elle nous disait, par exemple, Mozart, quand il a sorti ça, c'était un tube à l'époque. Il disait, vous voyez, à la cour du roi. Alors, je dis pas quel roi volontairement, car je ne sais pas quel roi était sous Mozart. Donc je ne veux pas dire de conneries. Mais bon, bref, elle disait, à la cour du roi, tout le monde sifflait ça. Vous imaginez comment c'était, vous? Qu'est-ce que vous adorez aujourd'hui? Il y a tel morceau à la radio. Eux, c'était... Et tout d'un coup, bah, tout d'un coup, c'est des gens, et tu les imagines, ils ont juste d'autres conditions de vie, d'autres circonstances, mais on est une équipe quand même, enfin, il y a une continuité, et ça, je trouve ça génial. Et par exemple, aussi, quand on disait, parce que là, on dit souvent, oh, les jeunes, ça a été dur, le confinement, ouais, machin et tout, mais nous, en fait, en vrai, moi, quand j'étais ado, à l'âge de mes filles, en vrai, nous, on avait... En fait, c'est un éternel recommencement, quoi. Ouais. Tu vois, c'est égal, quoi. C'est-à-dire, t'avais... Nous, on avait aussi une crise économique pas piquée, ouais, des hannetons. Une inflation, oui. On n'a pas piqué des hannetons, j'ai dit. On avait le sida. Enfin, je veux dire, maladie. On avait les attentats. On en, ouais, avait en pagaille. Ouais. Et juste... Et en fait, l'époque, elle est assez... Alors, bon, y a la différence énorme étant ce problème, effectivement, de planète qui, ouais, était déjà en train de se consumer, je pense, mais tout le monde s'en foutait, là, pour le coup. Personne ne... Voilà. Mais sinon, sur plein de... Il y a plein de points de contact où, ouais, où c'était la même.
Où c'est la même chose. Et c'est vrai que parfois, on fantasme des changements. Ou même, je sais pas, moi, parfois, je me dis déjà à 34 ans, est-ce que ce que je dis sur l'amour, les gars, dans mon spectacle, je me dis, voilà, la difficulté de la rencontre et machin, des rapports. Mais ça se trouve, aujourd'hui, les jeunes, il y a plus le genre, et puis ensuite je discute avec des meufs de 20 ans et elles sont comme moi, enfin genre tu, oui, vois, où elles sont en chagrin amoureux et, ben, déçues, oui, parce que les garçons ne veulent pas, et tu te retrouves avec des choses où c'est, et ça, et déjà ma mère m'avait dit, oui, tu verras les mecs quand même, c'est compliqué.
Mais il y a les deux, je pense, il, ouais, y a les deux, il y a que l'âme elle a pas subi de mise à jour, hein, donc je pense qu'on est les mêmes avec les mêmes envies, et que c'est même presque plus compliqué parce que je pense que comme certaines sont déclarées ringarde, ou qu'on n'a pas, ou qu'on est faible si on a envie de ça, mais non, on a quand même tous envie d'être amoureux et que ça se passe bien, en fait, c'est aussi con que ça, non, je sais pas, c'est, donc voilà, et c'est vrai que c'est devenu plus compliqué, parce que, mais c'est assez passionnant aussi, ça, moi je trouve, c'est parce que l'époque, moi, me passionne. Par exemple, je me disais la dernière fois, c'est quoi la j'en discutais avec ma fille, je dis, c'est quoi la puissance, la force d'un like, d'un cœur, là, je, ouais, dis, c'est un cœur, déjà, symboliquement, c'est bon, c'est ouf. Ça veut à la fois tout et rien dire. Parfois, ouais, tu peux démarrer une histoire parce que t'as été scroller l'insta d'un mec et t'as, ouais, laissé traîner, oh, tiens, j'aime bien cette photo, et lui, il fait, oh, et il te suit, ouais, et tu fais, oh, bah, toi, je te suis, ouais, et donc, et ça peut déclencher une vraie histoire, ouais, et à la fois, c'est rien.
Oui.
C'est le niveau zéro de l'engagement,
oui, oui,
comme ça peut être. C'est compliqué de naviguer à l'intérieur de ça. Hein.
Tout à fait. L'une des difficultés des réseaux sociaux, qui est cette semi-présence dans ta,
oui,
vie. Ça, c'est très dur. Ça, c'est vrai que
mais
c'est...
Mais qui n'est pas là, qui est virtuelle,
et
en fait.
Qui est virtuelle et qui veut rien dire, et en même temps qui est là, parce qu'on,
mais en
est,
même temps,
on est accro. Donc on voit, on se dit, moi, le pire, c'était de dire, attends, mais pourquoi il orbite? Tu sais, pourquoi je vois sa tête dans les spectateurs de ma story? Tu vois, et donc je vais vérifier. Mais ça veut rien dire. Il me répond pas, il ne réagit pas par un emoji, juste il a vu. Mais alors, et moi, je me faisais des films, je me disais, mais pourquoi tu regardes?
Est-ce que il avait vu ta story, ouais, mais oui, mais ça aussi, t'as raison, mais ça rend fou.
Ça rend fou.
Pourquoi tu regardes?
Pourquoi, alors, tu dis, si tu regardes,
ouais, alors parfois, t'es là, moi aussi, mais pour, ouais, parfois tu dis peut-être qu'il laisse défiler,
ouais,
toutes les stories.
Exactement, ouais, ouais, bon, mais c'est sûrement.
Peut-être, ou pas, non, mais ou pas, ou peut-être qu'il va voir et que.
Ou qu'il veut garder au chaud, mais c'est vrai que avant les réseaux sociaux, il y avait où tu te voyais, où tu te voyais pas, où, ah, tu, ouais, fixais un, c'est... rendez-vous, tu te fixais pas,
non,
de rendez-vous.
Et puis ça te forçait à sortir de toi-même. Si t'avais envie de déclencher un truc, t'allais attendre sur le banc en bas, ou je sais, oui, pas, ou en tout cas à un moment.
Et puis tu pouvais oublier plus vite, ou si tu gardais dans,
exactement,
la tête, tu gardais sur des souvenirs, mais pas sur des bribes de,
ah,
choses,
là,
qui.
Ça devient, c'est, ouais, c'est insupportable, je suis d'accord. Ouais, c'est que je sais pas comment on peut se sortir de ça, c'est compliqué. Hein.
Il y avait, ouais, un mec qui m'avait écrit, mais que je, ouais, connaissais pas, là, ouais, mais pas du tout. Donc, ouais. Mais ça m'avait fait tellement rire, c'était à l'époque, ouais, de Facebook, enfin j'y suis plus maintenant, parce que, ouais, là, pour le coup, il faut vraiment être très vieux. Et il m'avait mis réponds-moi ou bloque-moi.
Et alors tu avais répondu ou bloqué?
Ah ben j'avais rien fait. Non,
ouais. Ah merde, ouais, ni, l'un, ouais, ni, l'autre.
Ni l'un ni l'autre.
Tu as pas donné raison.
Non,
ouais,
non, non, parce que oui, pareil, moi je sais pas quoi. Enfin, c'est, ouais, pour le coup, en plus, j'ai pas encore une fois, mais je crois que même les jeunes, ils sont un peu désarçonnés, ouais, aussi, quoi. Ils ont des réflexes peut-être plus générationnels et tout, mais pour autant, ça leur crée la même confusion, je pense, en vrai, non?
Ouais,
elle,
ouais,
est tout jeune, je parle. Hein.
Si, si, je crois que ça accentue cette angoisse de la popularité.
Oui,
justement,
c'est vrai,
le like, c'est quelque chose de d'un coup, on rend visible qui est aimé, qui a la cote et qui ne l'a pas. Et puis ça devient en plus presque de la monnaie. Tu vois, je me dis, il y a 6 ans, quand j'ai commencé le stand-up, bon, c'était difficile. Hein, mais bon, tu faisais un petit plateau, tes blagues, elles étaient marrantes, on t'en recommandait un, puis un autre.
Ouais.
Et puis, oh, c'était une ambiance de merde en loge. Mais si t'étais marrant l'un dans l'autre, tu trouvais des scènes.
Oui.
Aujourd'hui, je vois les jeunes qui commencent, les jeunes ou pas jeunes, les gens de mon âge, mais ceux qui commencent à faire du stand-up pour être programmés, c'est ton nombre de followers.
Ouais, mais oui, mais même les acteurs, hein, pour jouer dans des films, ils regardent, hein, les producteurs, j'essaie tout à talent égal ou à notoriété égale, en tout cas dans le milieu, ils pourraient prendre celui qui a le plus de.
Ouais.
Ben, c'est chiant ça, non ?
Bah ouais, c'est une grosse psychose. Ouais, c'est chiant. C'est chiant parce que tu te dis.
Ben, c'est-à-dire, tu dois être ton propre attaché de presse, créer ton propre contenu, tu dois avoir ton canal de diffusion. Oh, putain.
Oui, puis c'est la course, au final, plus à l'écriture ou à la pensée, mais à la bonne idée de com.
Mais c'est ça.
Tu vois, c'est-à-dire, t'as vu, là, ils ont fait plein de photos sur Insta où c'est des.
Oui, il y a un filtre. Les années 90, là.
Ouais, donc les années 90. Donc, super pour les deux, trois premiers.
Oui, voilà, mais bon, ça y est maintenant.
Ceux qui arrivent maintenant, on les a vus les photos, c'est trop tard, mon coco. Alors, t'as ceux qui réussissent, c'est Tristan qui est aussi produit chez nous, chez À Mon Tour, qui lui a détourné, qui l'a fait, mais qui a mis ses dates de tournée dessus.
Et je me suis dit,
ah, génie.
Oui. Mais c'est ça.
Mais c'est vrai que c'est une course un peu à. Un peu vaine, en fait.
Oui, c'est un travail, normalement. Faire sa propre promo en permanence, c'est bizarre. Enfin, je sais pas.
Et en même temps, l'aspect vertueux, c'est qu'on dépend moins peut-être d'institutions.
Ah bah complètement. Ça, je suis d'accord. Voilà, ça a aidé des gens. Oui, ça, c'est sûr.
Est-ce que je peux te poser les questions du questionnaire de
Proust ?
Oui,
vas-y, je t'en supplie. Oui, c'est peut-être beaucoup.
La qualité que tu préfères chez un homme ?
Bon, je dirais le sens de l'humour.
La qualité que tu préfères chez une femme ?
Bon, c'est la même.
Le principal trait de ton caractère ?
Le manque de confiance en moi, je pense. Ça a un peu changé, mais quand même, le doute, on va dire alors.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ?
La fantaisie. Bon, alors ça rejoint un peu. Ouais, la fantaisie, en fait. Pas forcément d'être drôle, ça, c'est une façon de. Ça veut dire de voir le monde. De pas être conventionnel, d'avoir une petite porte de sortie dans chaque situation, je sais pas, de s'amuser de tout, de pas être conventionnel.
Ton principal défaut ?
Ah bah c'est le même que l'autre, alors le manque de confiance en moi, et sinon je peux être un peu susceptible.
Ouais, moi aussi.
Parce que quand je me sens victime, je suis tout le temps... Ouais, bah c'est ça, riez de moi. Mais t'es folle, personne ne... Enfin bref, ouais, un peu susceptible peut-être.
Je sais pas si c'est un défaut, la susceptibilité. Ah,
c'est vrai ?
Je sais pas. Parce qu'en fait, moi, je sais que mon père disait toujours à ma mère qu'elle était susceptible, mais quand je pense rétrospectivement, ouais, mais tu lui disais...
Bah tu as l'oubli, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Je vois ce que tu veux dire.
Tu vois, il y a aussi...
Mais sur les femmes, c'est beaucoup ça, t'as raison.
Ouais, il y a un truc comme ça, un peu des mecs. Je trouve que c'est un peu un truc de... Oh, susceptible.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, tu viens de la traiter de grosse, quoi, tu vois. Il y a un truc où... C'est... Je sais pas comment dire...
Si, je vois ce que tu veux dire.
Bon, c'est dur d'avoir la juste...
Après, c'est quoi le vrai défaut ? C'est quoi, radin ?
Ouais, c'est quoi le... Ouais, oui, ça, c'est vrai. Ça, les radins, ça, c'est des vrais défauts. Ouais, ça, c'est vrai.
Non, mais je crois pas
l'être, ça. Mais c'est vrai que la sensibilité, c'est... Oh mon Dieu, moi, comme j'ai congelé mes ovocytes pendant un temps, j'ai été sous hormones, tu vois. Oh, et là, j'ai vu, en fait, quand t'as trop de sensibilité, c'est insupportable. J'ai jamais été enceinte, je sais pas si...
Ah, mais de toute façon, mais que tu sois enceinte ou... Quand t'es une femme, t'es quand même... Il y a quand même des douches hormonales. Ouais, c'est un délire, en vrai.
Oui.
L'adolescente, mais ça n'arrête jamais, en fait, tout au long de ta vie. Et hop, bouleversement, prenez à droite, prenez à gauche.
Les règles tous les mois.
Les règles tous les mois. Après, sinon, après, quand il n'y aura plus les règles, c'est compliqué aussi. Oui. C'est tout le temps chiant, en fait, ou c'est comment...
Oui, bien sûr. J'ai une amie que j'adore, mais qui... Elle pleure, elle chiale, elle s'énerve et tout. Et parfois, j'ai peur pour elle, parce que je me dis, il faut que tu régules.
Oui,
enfin bon. Et à la fois, je trouve ça génial, parce que j'en ai une autre amie, j'ai l'impression qu'elle ressent rien et je me dis mais hello, réveille-toi, c'est atroce.
Bah oui.
Mais c'est c'est compliqué. Ah non, c'est un paysage.
Oui, on va dire ça comme ça alors. Escarpé.
Ton idée du bonheur ?
Je dirais aimer et être aimé en retour.
Quel serait ton plus grand malheur ?
Alors, ce serait quelque chose qui ferait du malheur à mes enfants, je crois.
Ton occupation préférée ?
Tricoter. Non. Rire.
Où aimerais-tu vivre ?
En pays, tu veux dire ? Ou en...
Oui, pays, ville.
Non, je suis bien à Paris, j'aime beaucoup cette ville. Après, J'ai jamais été au Brésil. Je pense que il y aurait moyen que ce soit un endroit dont je revienne jamais.
Ah, c'est possible. En plus, tu ressembles un peu à une Brésilienne, je trouve.
Je sais pas. Ouais, je sais pas. Ils ressemblent à tout et n'importe quoi. Brésiliens,
oui, c'est
ils sont
vrai
tellement
qu'il y a
mélangés.
Eu tellement de mixité, de métissage. Mais je sais pas. Je les imagine grandes aussi.
Ouais. J'écoute. J'ai très envie d'y aller.
Ce que tu détestes par-dessus tout.
C'est l'antillais, la mesquinerie, je dirais. La bêtise, mais pas la bêtise. Parfois, on fait. Ouais, la bêtise, du coup, qui va avec souvent des gens très sûrs d'eux, très confis dans leur certitude, de jamais chercher, de ne pas être curieux, et d'être petit, quoi, de tout ce qui est étriqué.
Comment aimerais-tu mourir?
Comme ça, j'arrive pas à le faire. D'un coup. On off, ouais, dans mon sommeil, hop, salut, au revoir.
Est-ce que tu as une devise favorite?
Ouais, j'avais une phrase, c'est con parce que c'est pas du tout une phrase que mes parents m'ont dit, c'est un truc que j'ai dû voir dans un film Netflix, mais vraiment, c'est un film feel good à la con. Ouais, les filles, ça va aller, un truc comme ça. Il y avait une meuf qui disait, mais en plus ça, mais qui disait à sa fille avec un peu des larmes dans les yeux, elle lui faisait genre, ouais, tu vois, dès que t'as l'occasion de danser, danse. Ah. Et je sais pas pourquoi ça m'a. Et je dis, mais oui, mais ça, oui, par contre. Oui. Pour plein de raisons.
Beau.
Ouais. Tu vois, c'est-à-dire, il faut le faire parce que.
Parce que c'est une décision peu. Parce que quand t'as une fête et qu'il y a de la musique, si tu ne décides pas de danser, ton corps va pas tout seul. Et donc, c'est à toi de te jeter sur la piste de danse et d'avoir envie. Ouais.
Et puis, ça fait monter la joie. Ouais. Et puis, même au-delà de ça, même si tu parles pas de. Même si tu prends cette phrase, genre, d'une façon métaphorique. Ça veut dire prends ta joie en fait quand elle se présente quoi.
Ouais.
Hein, parce que bon, tu vois, on a de la chance en fait, on se rend même pas compte. Là, je me disais là, aux événements, au vu de l'actualité, de tout ça, de la guerre, Israël, Ukraine, machin. Tu dis bon, et nous on est là dans la rue, il fait beau, on marche, on écoute de la musique, on fait bonjour, on respire une fleur. Bah putain, on a de la chance en vrai. Merde.
Savourer le goût de la paix.
Ouais. Oui, et de la...
La liberté.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Ouais, puis d'être en... Voilà, on marche, on respire, on vit, on voit les choses, on les entend.
Tout à fait. Je me faisais la même réflexion hier soir en mangeant.
Ouais, tu vois, tu
disais, j'ai le droit de manger ça, c'est bon, quelle chance. Quand il y a pas à quelques kilomètres tant de souffrance, c'est vrai que... C'est vrai qu'il faut continuer pour évidemment faire attention en France, etc., se battre pour les choses qui vont pas. Mais parfois, il faut aussi quand la vie est douce, simple, le reconnaître parfois, même sur des trucs bêtes, hein, peut-être même parfois, moi, pour être heureuse, je me dis oh, dis donc, c'était court ce trajet de métro finalement.
Il y a un truc que j'aurais dû dire, la qualité que j'aime chez les gens, c'est le goût du bonheur en fait. C'est-à-dire, c'est débile, hein, ça fait vraiment, là, pour le coup, développement personnel, mais c'est-à-dire de le reconnaître au moins. Tu vois, t'as des gens à chaque fois qui arrivent, ça va aujourd'hui? Tout le temps, non, mais en fait, tu t'entretiens dans un truc et d'essayer de voir, comme tu dis, un truc, genre, je sais pas quoi, une fleur, un papillon qui passe comme ça, je sais pas, moi, ça me met en joie, voilà, c'est rien. Hein. Si. Et même, par exemple, tu vois, c'est con aussi, mais sur des trucs, la dernière fois, pareil, dans le métro, je vois monter un mec, très androgyne, full make-up. Un contouring de ouf, machin, highlight, bam, les fossiles et tout. Assez beau, tu vois, très beau, même en David Bowie, un peu de l'époque. Et pareil, je me dis, putain, lui, il est là et tout le monde s'en fout, et c'est génial. Je suis contente d'être dans un pays où ce gars, il est là. Ouais. Et bon, après, je dis pas qu'il n'y a pas des horreurs qui se passent et qu'il ne se fait pas agresser, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, là, on était là,
ce jour-là,
tout le monde
est métro.
T'as une femme voilée là, t'as lui là, et tout le monde s'en fout. Foutez-nous la paix et on est bien ensemble, en fait.
Merci.
Et je t'en prie, merci à toi.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
and UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.